Amen, amen,
Je vais mettre ça de côté.
amen. Merci Sylvain. Est-ce que je me sens ici un peu comme ça? Est-ce que je peux descendre? C'est possible. Jamais, c'est plus confortable pour moi d'être proche de vous. Donc, mais j'espère que je vais pas casser cette fois-là les micros. Je vais faire attention. Ne vous inquiétez pas. Je vais faire attention. Ok? Seigneur, s'il te plaît, garde-moi de casser quelque chose. Parce que sinon, oh là là, ça va être chaud. L'équipe pastorale de l'église de Ponte m'a dit, fais attention parce que sinon, on va commencer à recevoir des factures pour payer des choses. C'est un peu chaud. Donc, s'il te plaît, garde-moi, Pierre. Mais chaque fois que l'Éternel m'accorde la grâce d'être avec vous, c'est vraiment un plaisir pour moi. C'est une bénédiction. Et je profite pour remercier mon frère, mon cher ami Sylvain, pour la confiance qu'il me fait. Et à vous aussi pour la patience que vous avez envers moi. Et mon église et les amis à Guatemala, mon pays d'origine, parfois me demande, ça va, Elvis, comment ça se passe? Et je dis toujours, écoute, les frères et sœurs, j'ai eu la bénédiction de tomber dans des églises où il n'y a que des gens gentils. Ils ont beaucoup de patience, malgré l'accent latino très fort et bizarre, ils ont beaucoup de patience. Donc, c'est une grâce. Et c'est une manière aussi par laquelle l'Éternel m'a montré sa grâce, son amour, sa bienveillance. Et voilà, je me sens un peu comme dans la famille ici. Ça devient quelque chose de spécial pour moi. Donc, c'est une joie et une bénédiction. Et je vois toujours, je ne sais pas, il y a quelque chose qui se passe chez vous, et je t'encourage, mon frère, à faire attention, mais l'horloge, j'ai l'impression que ça passe vite ici. Donc, je dois aller directement dans les messages parce que sinon, il y a un problème, il y a un problème. Il y a aussi les changements d'horaire, mais c'est trop, il avance trop vite, hein. Mais c'est le problème aussi à Ponto. À chaque fois que je prêche, j'ai l'impression, quand c'est Manu ou les autres qui prêchent, j'ai l'impression que ça prend du temps pour que l'horloge avance. Mais quand c'est moi, donc je dois prêcher déjà. Les amis, on est en train de vivre des moments compliqués, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas la première fois qu'on doit faire face à des pandémies, à des problèmes de guerre, une situation financière un peu comme ça. Ce n'est pas la première fois. Si on va regarder dans l'histoire de l'Église, on va voir que les chrétiens, ils étaient vraiment devant un défi avec une grosse pandémie dans le 2e siècle. Dans le 3e siècle, une autre pandémie plus forte et plus virulente, on dit, de ce qu'on a vécu ces dernières années. Très, très forte. Et aussi une situation économique horrible et forte et difficile dans le 5e siècle. On voit aussi que dans les 4e siècle, on dit comme ça, aide-moi, Seigneur. 4e siècle, c'était waouh! Waouh! Horrible et forte. Donc, ce n'est pas la première fois qu'on doit faire face à une telle situation difficile où il y a des guerres, des pandémies. Non, ça arrivait plusieurs fois. Il y a des spécialistes qui considèrent que, par exemple, dans les 4e siècle, c'était encore plus chaud, les choses. Donc, on voit que ça arrivait dans le passé. Mais ce qui m'a émerveillé toujours, c'est que tout au long de l'histoire, les héros de la foi, les chrétiens qui ont resté fidèles à l'Éternel, ils avaient une chose en commun. Tous. Tous. Et c'était leur espoir. Jésus-Christ est notre espérance, les amis. Jésus-Christ est notre espérance. Peu importe les circonstances, peu importe les situations difficiles à laquelle on doit faire face, ou les défis de la vie qui vont arriver, quand Jésus-Christ est notre espoir, quand on sait où on est enraciné, quand on sait qui est le chef, qui a le contrôle, qui est en train de diriger les choses, qui est encore en train de gouverner la terre, sa création. Quand on est conscient de cette réalité, on peut rester en paix. Peu importe les circonstances. Je vois par exemple que les deux disciples de l'apôtre Jean, Polycarpe et Ignace, on dit comme ça, Ignace d'Antioche, dans ces lettres qu'ils ont écrites pour encourager les églises, c'était clair cet aspect que Jésus-Christ est notre espérance. Par exemple, Ignace d'Antioche, dans la lettre qu'il a écrite à l'église en Éphèse, il dit comme ça, « Ayez bon courage en Dieu le Père et en Jésus-Christ, notre commune espérance. » C'est Jésus-Christ notre espérance. Et Polycarpe aussi, dans le deuxième siècle, il a écrit « Persévérons donc dans notre espérance et les gages de notre justice qui est Jésus-Christ. Jésus-Christ est notre espérance. » Mais la question logique, je pense, c'est pourquoi on dit que Jésus-Christ est notre espérance? Pourquoi on peut se confier à lui? Pourquoi on peut rester attaché à cette certitude qu'il est notre espérance? J'aimerais bien aborder deux aspects. Il y a plusieurs. Il y a des autres. Et j'aimerais bien aborder ce matin avec vous deux aspects, deux choses de pourquoi je crois qu'encore aujourd'hui, Jésus-Christ est notre espérance. Jésus-Christ est notre espoir. Mais avant d'aborder ça, c'est important pour moi de dire que l'espoir dans le Nouveau Testament ne consiste jamais, jamais simplement à souhaiter quelque chose. Un peu comme quand on dit « Ah, j'espère qu'il va pleuvoir aujourd'hui ». Non, on n'espère pas. C'est bien le soleil. Moi, en tant que latino, j'aime bien le soleil. Donc, mais c'est pas ça l'idée dans le Nouveau Testament. L'espoir dans le Nouveau Testament, je répète, ne consiste jamais simplement à souhaiter quelque chose. L'usage biblique de l'espoir suggère un désir, mais surtout avec une certitude absolue d'accomplissement. Notre espérance en Jésus-Christ, on est convaincu et on est sûr qu'il deviendra réalité. Et l'apôtre Paul nous aide à comprendre ça dans plusieurs des lettres où l'apôtre Paul a écrit. Il évoque souvent cette notion de l'espérance que nous devrions avoir en tant que chrétiens. Et où on doit placer notre espérance? On ne doit pas placer notre espérance dans le compte bancaire. On ne doit pas placer notre espérance dans les choses que nous avons, si nous avons une belle voiture, une belle maison, ou un bon travail, ou je ne sais pas quoi. Ce n'est pas là où on doit placer notre espérance. Notre espérance, on doit la placer en Jésus-Christ. C'est ça qu'évoque l'apôtre Paul. Par exemple, dans la lettre qu'il a écrite à son fils dans la foi, à son disciple Timothée, il a envoyé une lettre pour l'encourager, pour lui dire ce qu'il faut faire en tant que leader, en tant que pasteur, en tant qu'ancien d'une église. Il va lui donner des conseils, mais dans la première partie de sa lettre, dans les premiers versets, ça m'a émerveillé. Il commence par lui dire qu'il est un apôtre appelé par Jésus-Christ, par Dieu. C'est Dieu qui l'a appelé, c'est Dieu qui l'a envoyé pour les servir. Mais après, il dit, Jésus-Christ, notre, c'est-à-dire celle de Timothée et celle de lui-même, Paul, notre espérance. Il commence la lettre en disant, voilà qui est mon espérance, voilà qui est mon inspiration, voilà pour qui je peux avancer, voilà pour qui je peux faire toutes les choses que je dois faire, parce que c'est Jésus-Christ, le centre de ma vie, mon espoir. C'est dans les versets 1 de la première lettre qu'il a écrite à son disciple Timothée. Donc vous voyez le concept de l'espérance en Jésus-Christ est récurrent dans le Nouveau Testament. Mais il y a deux choses que je veux aborder. Et la première chose de pourquoi Jésus-Christ est mon espérance, mon espoir aujourd'hui, c'est sa présence avec moi. Sa présence avec nous. Pourquoi Jésus-Christ est mon espoir? Parce que ce n'est pas seulement qu'il nous a appelés, ce n'est pas seulement qu'il veut nous utiliser, ce n'est pas seulement qu'il a des choses pour nous dans l'avenir. Sa parole nous dit qu'il est avec nous. Nous allons voir ça dans une autre lettre que l'apôtre Paul a écrite, Colossiens chapitre 1, verset 27. Vous pouvez ouvrir vos Bibles, s'il vous plaît? Ça, c'est pas moi, tu vois, c'est pas moi, je suis. Et ça, ça bouge. Désolé. Colossiens chapitre 1, verset 27. Colossiens chapitre 1, verset 27. Voici ce qu'il dit la parole de Dieu. Car Dieu a voulu leur faire connaître quelle est la glorieuse richesse qui renferme les secrets de son plan pour les non-juifs. C'est-à-dire nous, les frères. C'est-à-dire nous. On n'est pas juifs. Moi, je ne suis pas juif. Et voilà les secrets que l'Éternel avait pour nous. Et voici ces secrets. Le Christ est en vue. Lui en qui se concentre l'espérance de la gloire à venir. Waouh! Waouh! J'ai quelqu'un qui m'aide, vous voyez? C'est bien. Mon frère, voilà, Dan, il va devenir un prédicateur. Merci Seigneur. Il s'entraîne déjà. Christ habite en chacun des croyants. Il est leur espérance de la gloire future. Seul notre Sauveur nous donne les droits d'avoir une place dans les cieux. La présence de Jésus-Christ en nous nous assure déjà notre place là-haut. C'est le Christ en nous qui est la base de notre confiance. Dans notre faiblesse et notre échec, nous ne devons pas désespérer. Christ est notre espérance. Dans les pires moments et circonstances, nous ne devons pas désespérer. Christ est notre espérance. Au dernier moment où on doit faire face à la mort, nous ne devons pas désespérer. Christ est notre espérance et il est avec nous. Ça m'a émerveillé toujours, les amis. Le fait qu'il nous a appelés, le fait qu'il nous offre une vie éternelle, le fait qu'il nous offre beaucoup de bénédictions, mais surtout qu'il est avec nous. Et c'est pour ça qu'il nous demande de faire des choses. C'est pour ça qu'il nous encourage. La parole nous encourage à faire des choses. Parce que ce n'est pas par notre propre moyen, ce n'est pas par ma propre force, ce n'est pas par mes propres énergies. C'est surtout parce que la présence de Dieu lui-même, son Saint-Esprit, habite en moi, habite en toi. Donc vous voyez, c'est extraordinaire. Je parle de cette présence qui a accompagné le peuple d'Israël. Cette présence qui a aidé à Élie de faire des grandes choses. Cette présence qui a donné la force, le courage, les paroles, les mots exacts à Pierre pour donner cette formidable message où 3000 personnes se sont confiées à l'Éternel. Donc vous voyez, le Christ, c'est lui pour qui toutes les choses ont été créées. Il nous offre être avec. On n'est pas seul. Peu importe les circonstances, les difficultés de la vie, Dieu est avec nous. Dieu est avec nous.
C'est lui qui nous aide à surmonter les épreuves les plus dures de la vie. C'est lui qui nous aide à tenir bon. C'est lui qui nous donne le courage. Donc on doit lui faire confiance. Mais vous savez, ça fait un mois que j'étais à Sénégal, dans un ministère, une mission qui est là-bas. Et dans ce lieu-là, il y avait un frère qui venait de Burkina Faso. Il a vécu des persécutions et des choses difficiles. Il avait des autres frères qui ont vécu des choses difficiles et dures aussi. Ils m'ont demandé de prêcher. Donc, quand j'étais en train de réfléchir et demander à l'Éternel de me guider, me donner les paroles nécessaires pour encourager mes frères et sœurs, je me suis dit, il faut, voilà, les encourager, parler de l'espérance que nous avons en Jésus-Christ. Donc, j'ai fait ça. J'avais dit, Dieu est avec vous. Si vous allez passer par des circonstances difficiles, compliquées, extrêmes, rappelez-vous, Dieu est avec vous. Tiens bon. Et vous savez quoi? C'est facile de le dire. Très facile. Donc, l'Éternel m'a fait un clin d'œil à la fin du message. Il m'a dit, ok mon fils, tu sais, je vais te laisser l'opportunité, l'occasion de mettre en pratique ce que tu viens de prêcher. Juste après les cultes, je reçois les messages de ma femme en disant, Evis, je ne vais pas t'inquiéter, tranquille, reste en calme. Une de nos filles a tombé d'un lieu haut, elle a tombé sur son... Et on est à l'hôpital, elle a un traumatisme crânial, on dit. Ils vont faire les scanners pour voir, mais il est dans une condition délicate. Ça fait au moins 30 minutes que je viens de prêcher. Tiens bon, Jésus-Christ est avec nous. Voilà mon fils, mais en pratique, c'est ce que tu viens de dire. Oh là là. Mais c'est ça, quand je vois les messages, je reçois l'appel aussi, t'inquiète, je suis avec elle, on est à l'hôpital, et il n'arrive pas à rester. Vous pouvez imaginer, qui a des enfants ici? Donc, on peut se sentir identifié quand même, un peu. Voilà. Et là, il me dit, oui, voilà les résultats de scanner. Il y a un hématome. Ouais. Ça peut être délicat ou peut-être pas. Et j'ai remercié l'Éternel pour cette occasion de me permettre d'apprendre à lui faire confiance. J'étais loin. Je voulais partir, quitter le Sénégal et aller pour être auprès de ma femme et avec mes autres filles. Mais je ne pouvais pas. Et j'étais en plus en train de servir l'Éternel là-bas. Donc voilà, j'ai compris. J'ai levé les prières et j'ai dit, je comprends l'Éternel. C'est vrai, tu as tous les contrôles. Et peu importe les circonstances de la vie, tu nous appelles à te faire confiance. Je viens de le dire, mais je vois que c'est dur de le mettre en pratique. Aide-moi. Aide-moi à te faire confiance. Et là, je tombais à genoux. Je lui dis, Éternel, c'est vrai, tu restes le Dieu Tout-Puissant. Dans toutes circonstances, même si tu prends ma fille, même si tu l'appelles à être avec toi, tu es souveraine, tu nous appelles à te faire confiance. Et surtout,
Je veux te faire plaisir à toi. Je veux obéir ta parole. C'est ça que l'Éternel attend de nous, mes frères et sœurs. Les faire confiance. Ces plaintes, selon la parole, sont parfaites. Donc j'ai prié, j'ai envoyé un message à mon église à Guatemala. J'ai demandé, s'il vous plaît, prie pour nous. Ils sont priés. La nuit a passé, ma fille à l'hôpital, sous supervision. Vous savez quoi? Notre Dieu, il est un Dieu puissant. Il est un Dieu fidèle. Il attend de nous confiance en lui. On a prié. Pendant la nuit, ils ont fait un autre scanner. Il n'avait rien. Ma fille a quitté l'hôpital. Comme elle est toujours très pipelée. La même. Mais après, je me suis dit, si ça aurait été pas comme ça, est-ce que je resterais avec cette attitude de te faire confiance, Éternel? Je ne sais pas, parce que ça n'a pas arrivé. Mais aide-moi, aide-moi. Et surtout parce qu'il est avec nous, mes frères et sœurs. J'aime beaucoup le psaume 23, verset 4. Il dit, « Si je devais traverser la vallée où règnent les ténèbres de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tout est auprès de moi. Ta houlette me conduit et ton bâton me protège. » Vous voyez? Donc voilà pourquoi Jésus-Christ continue à être mon espérance. Il est avec moi dans les pires moments de la vie, dans les difficultés les plus sérieuses. Il est avec nous. Il reste avec nous. Il est un Dieu fidèle. Et voilà pourquoi Paul a arrivé à dire dans les mêmes chapitres, chapitre 1 de la lettre aux Colossiens, dans les versets 29, « Voilà pourquoi je travaille et je combats par la force du Christ qui agit puissamment en moi. » Vous voyez? C'est lui qui nous donne la force. S'il permet qu'on passe par des difficultés, des choses, c'est lui qui va nous aider. C'est lui qui va nous accompagner. C'est lui qui va amener la force. C'est lui qui va amener l'encouragement. J'ai partagé plusieurs fois ici avec vous mon expérience avec le décès de mes parents. Et je me rappelle, avant de retourner ici en France, je suis parti pour voir une dernière fois le tombeau de mes parents. Et là, j'étais devant le tombeau et j'ai profité pour remercier Dieu de m'avoir donné cette bénédiction d'avoir un père et une mère fidèles à lui. Et là, je commence à réfléchir, « Ah mince, qui va prier pour moi maintenant ? À qui je vais appeler pour demander les conseils ?» Tous les jours, je demandais conseil à mon père. Il était un homme très sage, un serviteur de Dieu. Et là, je commence à paniquer un peu. Et là encore, merci beaucoup. Ici, vous voyez? Et là, merci beaucoup. Et là, merci beaucoup. Cette fois-là, ça ne va pas être les micros, mais plutôt ça. Et là, j'étais justement en train de me dire, oui, à qui je vais appeler pour demander conseil? Et ce qui va me manquer le plus, c'est les prières précieuses de mes parents. Et là, l'Éternel amène cette passage, le psaume 23, 4. Justement, rappelle-toi, je suis avec toi. Je suis avec toi. Dans les moments plus durs de la vie. Et l'ennemi, c'est un spécialiste hein, pour amener des pensées. Je suis seul. Il n'y a personne pour moi. Il n'y a personne qui m'appelle. Personne ne m'a appelé.
Il y avait un chrétien qui a vécu la persécution à cause de sa foi. Il a vécu 14 ans emprisonné à cause de sa foi. Lui, il a dit, si le créateur du ciel et la terre, si lui est avec nous, peu importe que le reste du monde ne soit pas avec nous, lui, le Dieu Tout-Puissant, le Dieu fidèle, est avec nous. Et c'est ça. Fais attention, mes frères et sœurs, dans ce moment où il y a beaucoup de gens angoissés, préoccupés, perturbés pour ce qui se passe. Rappelle-toi, le Créateur du ciel, de la terre, est avec toi. C'est Dieu qui a marché, a encouragé, a donné la force à Moïse, à Néhémie. Il est avec toi. Oui, il est avec toi. Le pasteur fondateur de l'église de Ponto Combo, il a décédé en janvier. Quelques jours avant de mourir, deux jours, trois jours, quelque chose comme ça avant de mourir, le pasteur principal de l'église, Manu, l'a rendu visite à l'hôpital. Et là, il ne parlait plus, mais quelque chose qui nous a beaucoup touchés à tous, c'est que quand Manu est venu et Chris l'a vu, il a fait un geste qu'il faisait toujours à l'église. On tient bon. Malgré les difficultés, malgré les circonstances difficiles de la vie, on tient bon. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que c'est Dieu puissant et fidèle qui nous a tellement aimés, a promis de rester avec nous. Voilà les secrets qu'il avait pour nous, que sa présence puissante restera en nous, avec nous. Cette horloge, il a un problème. Je suis convaincu. Je suis convaincu qu'il y a un problème. J'avais dit que j'aborderai deux choses. La première chose, c'était ça, qu'il est avec nous. Désolé, pardon. Mais la deuxième, c'est pas seulement qu'il est avec nous, qu'il nous accompagne pendant notre parcours ici sur la terre. C'est pas seulement qu'il restera avec nous toujours. C'est pas seulement qu'il va nous aider à tenir bon. C'est pas seulement qu'il va nous encourager, nous donner l'énergie face aux difficultés. C'est pas seulement ça. Mais aussi, il nous offre la vie éternelle. Waouh! Wow! Quelle merveille! Et c'est ça qu'il le dit à la fin du verset qu'on avait lu. Le Christ est en vous. Lui en qui se concentre l'espérance de la gloire à venir. Son retour. Quelle grâce, n'est-ce pas? Mais j'aime beaucoup un autre passage où il aborde cet aspect. Et ça se trouve dans la lettre qu'il a écrite aussi à un de ses disciples, Tite. Tite, chapitre 3, verset 4 jusqu'au verset 7. Il dit, « Mais quand Dieu, notre Sauveur, a révélé sa bonté et son amour pour les hommes, il nous a sauvés. S'il l'a fait, ce n'est pas parce que nous avons accompli des actes conformes à ce qui est juste. Non, il nous a sauvés parce qu'il a eu pitié de nous, en nous faisant passer par les bas purificateurs de la nouvelle naissance, c'est-à-dire en nous renouvelant par le Saint-Esprit. Cet Esprit, il a répandu avec abondance sur nous par Jésus-Christ, notre Sauveur. Il l'a fait pour que, déclaré juste par sa grâce, nous devenions les héritiers de la vie éternelle qui constitue notre espérance. On a la vie éternelle. On a la vie éternelle. Ce n'est pas que ça va nous arriver après,
mais on l'a déjà dans les présents. Pour ceux qui ont placé sa confiance en Jésus-Christ,
ils ont déjà la vie éternelle. C'est ça que les passages, il dit. Et même Jésus, il avait dit que ceux qui placent la confiance en lui, ils ont la vie éternelle. As-tu placé ta confiance en Jésus-Christ? On sait qu'on peut lui faire confiance à lui parce qu'il a vaincu la mort. Il a ressuscité. Il a une vie éternelle. Paul, il dit dans la lettre qu'il a écrite à l'église aux Corinthiens, on dit, il dit que plus de 500 personnes ont vu Jésus-Christ ressuscité. Il y a plusieurs personnes qui ont mangé avec lui, qui ont marché avec lui, qui ont partagé des moments puissants, forts avec lui. Il était ressuscité. Il est ressuscité. Il a vaincu la mort. Et grâce au fait qu'il a vaincu la mort, qu'il a la vie éternelle, on peut lui faire confiance. Et cette vie éternelle nous appartient à nous aussi, grâce à son sacrifice, grâce à son œuvre parfaite. Amen. Quand on sait que Dieu est avec nous, qu'il marche avec nous, que c'est lui qui nous soutient, que c'est lui qui nous encourage, et en plus, on sait que même si la mort arrive, on va revenir à la vie, on va ressusciter. Est-ce que c'est logique chez nous d'avoir l'angoisse, d'être trop préoccupé devant les situations qu'on est en train de vivre? Si on sait que Dieu est avec nous et lui, il nous offre la vie éternelle, restons tranquilles. On a l'espérance, on a l'espoir en Jésus-Christ, n'est-ce pas? Et c'est l'exemple que je vois dans les héros de la foi de l'histoire de l'Église. J'aime beaucoup la lettre de quelqu'un, un païen, qui a écrit « Et, les gars, il a écrit à une communauté romaine, il a dit « Et, avez-vous regardé comment les chrétiens, ils n'ont pas peur de la mort, hein? Oh là là, c'est fou ces trucs-là !» Mais pourquoi les chrétiens, à cette époque, ils n'avaient pas peur de la mort? Et pourquoi on ne devrait pas avoir peur de la mort, de les circonstances de la vie? Parce qu'on sait comment ça va finir. On sait déjà qu'on a la vie éternelle en Jésus-Christ. Amen. C'est lui-même, Jésus-Christ, qui a dit en Jean 11, verset 25, « Je suis la résurrection et la vie, lui dit Jésus. C'est lui qui place toute sa confiance en moi, vivra, même s'il meurt. Et tout homme qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Crois-tu cela? Dieu est avec nous et il nous offre la vie éternelle. On peut lui faire confiance. Même s'il arrive la guerre, même s'il arrive les circonstances difficiles de la vie, on reste tranquille. On sait comment ça va finir tout. On sait que le Dieu tout-puissant, le Dieu fidèle est avec nous. Et un jour, on va devenir comme lui, parce qu'on va le voir face à face. Quelle grâce, n'est-ce pas? Je vous encourage, mes amis, à vous rappeler de cette vérité. On n'est pas seul. Dieu est avec nous. J'aimerais bien finir par le passage de l'apôtre Jean dans sa première lettre, dans le chapitre 3, verset 2 jusqu'au verset 3. Il dit, « Mes chers amis, mes chers amis, dès à présent, nous sommes enfants de Dieu et ce que nous serons un jour n'a pas encore été rendu manifeste. Nous savons que lorsque le Christ paraîtra, nous serons semblables à lui, car nous le verrons tel qu'il est. Tous ceux qui fondent sur le Christ une telle espérance, c'est rendre eux-mêmes purs, tout comme le Christ est pur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Qu'il nous aide à tenir bon. Parce qu'il est avec nous. Et il nous offre la vie éternelle. Amen. Que Dieu vous bénisse.